Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans les aventuriers du Pixel Perdu.
We're about to complete a great quest, the Holy Grail, Dr. Jones. Oh, rest.
Pour cette nouvelle aventure, nous empruntons les sentiers tortueux de l'imaginaire colonial aux côtés de Lawrence d'Arabie et autres Indiana Jones. Car bien qu'il n'ait pas connu le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie, nous nous sommes demandé si, comme les autres arts avant lui, le jeu vidéo n'était pas perclus de représentations issues d'un rapport colonial au monde. Des pyramides égyptiennes aux plantations antillaises en passant par les terres arides du Sahel, nous avons visité pour vous les types et archétypes qui semblent avoir contaminé à leur tour les imaginaires vidéoludiques. Et ce n'est pas un hasard si nous ouvrons cet épisode sur cette musique, Thomas.
Non, en effet, c'est donc la musique qu'on retrouve dans Tomb Raider 3 et qui accompagne donc Lara Croft lorsqu'elle arpente les jungles de l'Inde. Et déjà, on peut voir à travers ces musiques et d'autres choses qu'il y a un certain orientalisme et un exotisme classique qui sont perpétués, qui existaient avant les jeux vidéo et qui sont perpétués à travers les jeux vidéo. On le voit déjà dans ces musiques-là qui sonnent vraiment d'une certaine connotation et d'une certaine idée qu'on a d'espace, de l'ailleurs, quoi. Et aussi, surtout dans le médium vidéoludique, des représentations de l'espace. Parce que ce qui est différent par rapport aux représentations de l'espace qu'on pouvait avoir, par exemple, dans le cinéma colonial qui représentait ces espaces-là, c'est qu'il y avait un certain ancrage dans une forme de réalité dans le cinéma colonial. C'est-à-dire qu'on filmait des endroits qui, au moins, étaient vraiment réellement issus de ces espaces-là. Avec le jeu vidéo et le fait qu'en fait, c'est des mondes clos qui vont être recréés de toutes pièces, du coup, c'est une certaine idée qu'on a vaguement de tous ces espaces-là qui va être rendue purement et simplement dans le jeu. Et du coup, il n'y aura même pas un genre de semi-réalisme dans le fond. Ce sera uniquement des lieux clichés, notamment au niveau des temples ou des ambiances sonores comme on l'entendait là, de tam-tam ou tous ces instruments assez orientalisants. Et il suffit de lancer Tomb Raider pour se rendre compte de ça, surtout les niveaux égyptiens qu'on a pu voir dans le premier, dans le 4 et dans le remake Anniversary, et avec tout, on voit des obélisques de partout, des sphinx, l'espace est perclus de toutes ces choses-là, de tous ces imaginaires-là, ou même de Far Cry 2 qui représentait une nature sauvage dans laquelle on allait affronter des guerrieros africains, enfin vraiment toujours cette idée d'orientalisme et d'exotisme qui va avec les régions désertiques ou au contraire luxuriantes des forêts.
Oui, parce que finalement, pour représenter ces lieux, cet ailleurs un peu mystérieux qu'ont toujours été l'Orient et qui a toujours été l'Afrique dans les arts, là, le créateur de jeux vidéo n'a même pas besoin de s'y rendre pour le représenter. Il peut se fonder uniquement sur un imaginaire qui est le sien, sur des représentations qui sont les siennes et qui sont parfois tronquées. Mais d'ailleurs, ça, on le voit même dans des jeux qui représentent des régions désertiques, mais qui ne sont même pas des jeux d'aventure qui sont censés s'y dérouler, des jeux de type RPG dans lesquels par exemple le héros à un moment donné de sa quête va se retrouver dans un désert ou dans un endroit chaud plutôt ou dans une espèce de jungle, on va s'apercevoir que les clichés qui sont mobilisés dans ces mondes soi-disant imaginaires en fait sont issus directement des clichés orientalistes issus d'une pensée coloniale de l'image.
Bah oui, surtout, enfin moi je pense à des exemples type enfin, dans certains Dragon Quest ou dans certains Final Fantasy, voilà, ces régions désertiques-là, on va retrouver des personnages qui portent des vêtements typiques de l'Orient, enfin, avec des sarouels ou des genres de turbans ou des vêtements, voilà, qui ont vraiment une connotation, quoi, qui montrent vraiment qu'on est dans ces espaces-là ultra exoticisés dans le jeu et qui pour le coup, voilà, sont vraiment dans un genre d'ailleurs à la Baudelaire, quoi, vraiment rêver, enfin. D'autres espaces qui sont fantasmés. Il y a vraiment un fantasme de l'Orient. Et en même temps, dans le jeu, ces zones désertiques, elles viennent... C'est vraiment un renouveau du jeu. C'est-à-dire qu'on était dans des régions qu'on connaissait, qui étaient assez semblables, et arriver dans ces régions-là très exotiques, bah, ça renouvelle un peu les imaginaires-là, et c'est souvent des régions qui sont assez appréciées, quoi.
Et ces clichés qui fondent un petit peu toutes ces représentations, ils sont aussi appliqués aux personnages. L'indigène... En tout cas, celui qui est considéré par le jeu comme un indigène est souvent réduit au rang de guide pour le colon. On le voit, comme tu disais, dans Tomb Raider, lorsqu'elle visite l'Égypte, l'Égypte des pyramides et tout ça.
Début du 4,
elle est emmenée par un guide sur son chameau qui a tous les atours du berbère, alors que les berbères, c'est pas dans cette région, etc. Mais qui mobilise tout cet imaginaire du guide mystérieux qui attend le blanc qui est le héros blanc, qui est la médiation entre le joueur blanc et le lieu, donc qui lui permet de s'identifier, et le héros blanc qui a lui-même besoin d'un guide pour le guider, etc. Enfin, comme s'il y avait une espèce de double médiation entre le joueur occidental et le lieu exotique.
Oui, et puis en même temps, de définition qui est pour le coup purement orientaliste comme le définissait Said, c'est-à-dire que le joueur il va aussi se définir par différence à tous ces indigènes en fait finalement, et lui ça va être le blanc qui va œuvrer et agir. Et on peut penser comme autre personnage, on peut penser à la femme séductrice dans ces idées-là. Moi je pense beaucoup à Malia Gede dans le premier Gabriel Knight, qui est une série de point and click de la fin des années 80 ou du milieu des années 90, je sais plus trop, et où en fait c'est un écrivain je crois qui enquête sur une série de meurtres liés au vaudou à la Nouvelle-Orléans, et du coup il rencontre Malia Gede qui en fait est liée, enfin je spoil un peu, mais qui est liée justement à toutes ces histoires de meurtres vaudou, et qui lors d'une scène de rituel vaudou va apparaître voilà comme cette femme qui est possédée par un genre d'esprit de Marie Laveau ou de Tételo, je crois qu'il est appelé dans le jeu, et qui du coup parce que Gabriel est drogué pendant cette scène, et ben elle va se fondre, enfin il y a une cinématique où justement on la voit parce qu'elle porte un masque de guépard je crois ou de jaguar. Et du coup, Gabriel n'arrive plus à distinguer si c'est une femme ou un animal félin. Enfin, cet imaginaire-là de la femme félinisée qui
Mais
devient...
c'est exactement ce que dit Pascal Blanchard dans ses écrits sur le cinéma colonial. Il dit que souvent, la femme noire est très sensuelle et féline. Enfin, il utilise vraiment l'adjectif féline pour qualifier cette femme qui a ces espèces de mouvements. Alors, ça relève de la séduction, mais ça relève aussi d'une séduction animale et qui est un petit peu... vicieuse quelque part. Enfin, une espèce de représentation très, très étrange quoi, de la relation.
Oui, et puis, pour continuer sur Malia, il y a aussi toute cette idée qu'elle va incarner toutes les forces mystiques qu'il y a dans le jeu. Parce que dans le jeu, Gabriel Knight, il découvre dans le premier jeu qu'il est un Schattenjäger, c'est-à-dire un chasseur d'ombre en allemand, qu'il est le descendant d'une certaine lignée. Et comment ne pas penser à un genre de parallèle colonial, c'est-à-dire que lui, c'est un peu le blanc civilisateur qui vient rationaliser le vaudou qu'il y a en Malia, et le fait que voilà, elle est une créature séductrice et féline, et le fait que, parce qu'il y a une relation qui se noue entre eux, voilà, une relation, c'est le love interest du jeu en fait, Malia, Et voilà, il y a ce genre d'exorcisme en fait qui va devoir s'opérer par le mâle blanc en quelque sorte civilisateur sur la femme, voilà, sur la femme noire issue du vaudouisme, qui va être rationalisée et qui va être libérée de toutes ces de cet esprit qui la possède en fait.
Oui, enfin c'est vraiment un topos de toute la littérature, tout le cinéma colonial, tout cette femme qui est en fait qui incarne, qui comme si toutes ces forces mystiques de l'endroit, de cet espace à découvrir, passer à travers elle. Et il y a toute cette métaphore, bien sûr, sexuelle entre la conquête et la possession de la femme, quoi.
Oui, surtout que dans le jeu, ça se voit de plus en plus, parce que étant donné que Malia est voilà une fille d'une ancienne famille de la Nouvelle-Orléans, qui en fait est une famille qui pratique le vaudou depuis très longtemps, ben en fait on va la croiser à plusieurs endroits de la ville et elle est très présente partout dans la ville. Et finalement, l'objectif du jeu va se confondre avec la conquête de la femme, c'est-à-dire que voilà, à la fin, par exemple, bon, attention, spoiler alerte, à la fin du jeu, il y a deux fins possibles, celle où Malia meurt, si on ne la sauve pas parce qu'elle va tomber dans un trou, ou celle où on la sauve et elle est libérée de Tetelo, c'est-à-dire que soit le jeu est perdu parce qu'on a perdu la conquête féminine, on n'a pas réussi à avoir la femme et à la sauver d'elle-même, parce qu'on la sauve d'elle-même en fait, on la sauve d'esprit qui la possède, enfin oui, on la sauve d'elle-même, et soit, justement, le colonisateur blanc arrive à exorciser ses démons, arrive à la sauver, et du coup, il la ramène à lui, et du coup, voilà, il y a cette victoire-là, en fait.
Et le jeu, en ce sens-là, va être vraiment replacé, le joueur, dans la place du colonisateur qui doit redonner du sens à un monde qui n'en a pas, et c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans toute une éducation coloniale, enfin, c'est ce que Nicolas Bancel et Daniel Denis appellent l'éducation coloniale. Ils pensent qu'il y a tout un ensemble de jeux, de mise en situation symbolique qui forment les enfants à devenir des homo-impérialistes, ce qu'ils appellent les homo-impérialistes. Et le jeu de loi, donc un jeu de société, en fait partie. En fait, parce que le jeu de loi, il propose un parcours, bon, classique, mais à l'origine, c'était dans les colonies, dans des mises en scène de toutes les catégories coloniales, c'est-à-dire la mission civilisatrice, l'œuvre sanitaire. Tu incarnes le conquérant courageux et tu dois fixer des espaces coloniaux symboliquement sur le plateau. Ça te donne une double appréhension de la colonie, donc une appréhension spatiale, donc l'espace qui est symbolisé, qui est intégré par le circuit que tu as à faire dans le jeu, et temporelle, donc c'est une progression qui est rendu difficile, en fait, un peu dans une dynamique de conquête. Ça symbolise vraiment la conquête.
Oui, bah oui, tout à fait. Et puis c'est surtout quelque chose qu'on va retrouver... Enfin, au niveau de... Il y a un chercheur qui s'appelle Souvik Mukherjee, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit un livre qui s'appelle « Video Games and Postcolonialism, Empire Plays Back ». Et qui en fait s'intéresse justement à la notion de post-colonialisme, donc les post-colonial studies, hein, qui s'intéressent aux pensées coloniales et à l'après et aux textes écrits pendant la colonisation, et aux œuvres produites pendant la colonisation. Et du coup, il va justement s'intéresser à l'apport des jeux vidéo dans cette étude postcoloniale. Parce que lui, une des interprétations qu'il donne, il s'intéresse à la cartographie dans les jeux. Par exemple, dans ces jeux où... Enfin voilà, les jeux type Age of Empire ou la série des Total War ou les Civilizations aussi. Enfin, tous ces jeux où on doit gérer une immense map, une immense carte. En fait, c'est une représentation, voilà, comme tu disais, du jeu de loi et de l'espace à appréhender avec la mécanique du Fog of War, hein, le brouillard de guerre, qui est le brouillard qui va se dissiper à mesure que le joueur arrive à avancer. Et en fait, ça va être une manière de rationaliser l'espace, de le soumettre à des logiques de jeu, mais aussi, du coup, à des logiques impérialistes, c'est-à-dire construire les bâtiments aux bons endroits, rendre l'espace fonctionnel pour des combats, ou pour des combats généralement, parce qu'il faut défendre aussi son espace. Et du coup, tout ça s'intègre à un processus de jeu qui est purement colonialiste et qui rappelle totalement, voilà, ces jeux-là qu'il y avait à l'époque coloniale.
Et ce qui est à noter, c'est que c'était le projet de Citroën, de l'entreprise Citroën dans les années 20, qui, avec La Croisière Noire, donc qui est un film de 1925, a voulu faire filmer par un réalisateur toute la constitution d'un réseau routier, en fait, en Afrique centrale. Et en fait, c'était vraiment l'idée que Citroën arrivait et créait un lien territorial territoriale dans une espèce de chaos originel, comme si avant il n'y avait rien, un petit peu comme cette idée du fog of war dont tu parlais, l'idée que avant l'arrivée du colon et du conquérant, il n'y a rien, il n'y a que du brouillard ou du chaos. En l'occurrence pour Citroën, c'était du chaos, c'était vraiment le vocabulaire qui était utilisé. Et quelques années plus tard, dans un autre film qui s'appelle L'homme du Niger, donc qui est un film de Baron Céline de 1939, il dit dans une interview que l'œuvre française en Afrique est à ses yeux une lutte contre la maladie et contre la mort, comme si il y avait une espèce de lieu insensé, de monde insensé qui est en train de se désagréger, et que en fait le colon blanc arrive et lui redonne du sens. Et c'est vraiment ce que tu dis sur la dynamique de la map en fait, enfin de la carte que tu constitues au fur et à mesure de tes exploits, on va dire entre guillemets. Et c'est vraiment l'idée de l'exploit n'est pas innocente, parce que c'est ce qu'on retrouve dans le scoutisme, qui en fait à l'époque était considéré comme une manière de s'entraîner au fait colonial, de s'entraîner à devenir un homme de caractère. Enfin, c'était vraiment le vocabulaire en courant de l'époque. Et en fait, on métaphorisait l'espace colonial comme un terrain d'aventure et même de jeu, finalement, dans lequel le jeune scout, enfin l'éclaireur de France, on appelait ça un éclaireur de France à l'époque, s'entraînait à défendre les marches de l'Empire, à vraiment le prendre en main. Et d'ailleurs, dans le livre de l'éclaireur, qui a été écrit par différentes personnes, dont des anciens colonels ou enfin militaires qui avaient fait les colonies, comme on disait à l'époque, il écrit « Le terme éclaireur désigne des hommes d'élite provenant de toutes les catégories sociales qui, par la force et la noblesse de caractère, autant que par leur jugement, leur décision et leur sens pratique, seront les guides, les vigies de la France, les vrais pionniers de sa civilisation et de son action commerciale, industrielle, maritime, militaire et coloniale. » Donc c'est vraiment l'idée qu'on joue, et le jeu nous apprend à être des colonisateurs, à être des conquérants, mais conquérants dans un sens qui est problématique en fait.
Oui, bah c'est exactement ce que dit Mukherjee, c'est que Mukherjee, il pense justement que derrière le jeu, il y a toute une logique impérialiste, c'est-à-dire qu'on joue la logique impérialiste et on la reproduit, on la réfléchit pas toujours, je pense, et du coup, voilà, il y a une forme d'impérialisme qui traverse le jeu, et comme à l'époque de la colonisation, le jeu vidéo est empreint d'une idéologie coloniale, forcément, parce qu'il reprend des mécaniques qu'on peut rapprocher du colonialisme, en fait.
Quand j'étais gamin, j'avais une passion pour les cartes. Je regardais pendant des heures l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, et je me perdais dans les splendeurs de l'exploration. En ce temps-là, il y avait de nombreux espaces vierges sur la carte, et quand j'en voyais un qui avait l'air particulièrement attrayant, mais ils ont tous cet air-là, je posais le doigt dessus et je disais: quand je serai grand, j'irai là. Le pôle Nord était un de ces endroits. Je n'y suis jamais allé, ce n'est pas maintenant que j'essaierai. Le charme s'est évanoui. Il y en avait d'autres autour de l'équateur et sur un tas de latitudes couvrant les deux hémisphères. J'ai navigué sur plusieurs d'entre eux et... Oh, je ne vais pas parler de ça. Mais il y en avait un, le plus grand, le plus vierge, qui me faisait soupirer. Il est vrai qu'à ce moment-là, il n'était plus si vierge. Depuis mon enfance, il avait été rempli de lacs, de fleuves et de noms. Il avait cessé d'être un endroit délicieusement mystérieux, une tache blanche qui allume des rêves de gloire chez un jeune garçon. C'était devenu un lieu de ténèbres.
Alors là, on vient d'entendre un extrait de « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad, et qui pourrait être issu de la cinématique d'ouverture, finalement, de Far Cry 2, presque.
Ah bah oui, là, on est dans cet esprit-là, surtout que le continent, enfin, l'espace dont il parle, c'est l'Afrique.
C'est le Congo, plus précisément.
D'accord, c'est le Congo, plus précisément. Et du coup, oui, Far Cry 2 qui se passe, voilà, en Afrique, et d'ailleurs qui est Au cœur des ténèbres a été une forte inspiration pour le jeu, c'est assumé. Et oui, il y a cette idée-là aussi dans Far Cry 2, et d'ailleurs qui est dans toute la série des Far Cry, de ce qu'on disait avant sur les cartes et sur la map à à maîtriser, plein d'objectifs à atteindre. Et en fait, l'expérience du joueur, comme l'expérience d'un colon, va relier tous les espaces entre eux et va en faire un genre d'espace commun qui a été visité, qui a été confronté et qui finalement a été conquis, en fait. Et c'est une logique ultra-impérialiste, mais qu'on retrouve dans énormément de jeux, notamment les Far Cry, quoi.
Bah, en particulier dans celui-ci, effectivement, où la cinématique d'intro nous dit... t'as le blanc, enfin les pensées du blanc qui dit « j'ai senti tout de suite que ce pays avait un problème », etc. Comme s'il y avait une espèce voilà, d'impression du colon qui arrive et qui sent l'air ambiant. Il a un chauffeur noir qui arrive, qui vient le chercher, on entend les tam-tams dans le lointain, on sait pas trop d'où ils viennent. Enfin, tout le sound design, toute l'ambiance dans laquelle on est plongé nous plonge dans une espèce de représentation coloniale de l'Afrique, mais... qui fait peut-être appel à des représentations d'un genre nouveau par rapport à celles qui étaient présentes chez Conrad.
Oui, même s'il y a toute cette représentation-là de l'Afrique, qui est très datée et qui est totalement coloniale, en fait, à côté de ça, on a une représentation de l'Afrique qui est post-coloniale, qui est ultra-moderne, parce que, justement, au cœur du scénario du jeu, il y a un affrontement entre deux guérillas, j'ai oublié le nom, et en fait, le joueur doit aller tuer le chacal, qui est celui qui fournit les deux camps en armes, et du coup, qui attise les flammes de cette guérilla. Guérilla.
C'est ça, il y a un nouvel imaginaire, presque, de l'Afrique aujourd'hui, qui est issu directement de la colonisation, mais qui la met en scène de manière radicalement différente. On n'est plus dans l'Afrique de la nature sauvage et mystérieuse et tout, avec les rites un petit peu étranges, tout ça. Là, on se retrouve dans une Afrique des factions, une Afrique qui est plongée dans le chaos, dans des affrontements ethniques, dans la violence, qui est entretenue par tous les massacres qu'il y a pu avoir, le Darfour, oui. Kinshasa, le Rwanda, etc. Et on se retrouve en fait dans une espèce de nouvelle... exotisme, un exotisme d'un monde en proie au chaos.
Oui, ce qui est, pour le coup, comme tu le dis, totalement postcolonial. C'est-à-dire cette représentation-là qu'on a d'une Afrique qui aurait été livrée au chaos à partir du moment où elle a été libérée du joug colonisateur, parce qu'elle n'est plus régulée par quelque chose d'extérieur à elle et qu'elle n'est pas capable de se réguler elle-même. Et du coup, on se retrouve face à des représentations, certes nouvelles, mais qui obéissent toujours à des trucs ultra inspirés des colonialistes, les ennemis qui arrivent à la machette. On pensera à cette fameuse polémique qu'il y a eu il y a 10 ans sur Resident Evil 5, qui avait eu, quand on voit le trailer, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit le héros qui arrive, donc Chris Redfield, un héros connu de la saga, qui arrive en bottines militaires, le torse saillant de muscles et blanc. Enfin, évidemment blanc.
Le seul blanc.
Voilà, et qui arrive au milieu de ce village d'Africains. Et il y a tout un flou qui est entretenu et qu'on ne comprend absolument pas et qui n'est jamais totalement éclairci sur est-ce que les Africains sont, quand on arrive dans le village ou dans ce trailer, sont déjà des zombies ou pas, en fait. On se demande, est-ce qu'ils sont représentés comme ça? Est-ce que les Africains sont vraiment représentés comme des zombies ou est-ce qu'ils sont déjà des zombies?
C'est ça, ils ont des démarches... très robotique, très figé, ils sont très raides, ils ont le visage émacié, ils le regardent avec un air exorbité, enfin avec des yeux exorbités. Ils ne parlent jamais. La seule avec qui il va interagir, enfin la seule femme avec qui il interagit, c'est vraiment une métisse. En plus, elle n'est pas vraiment tout à fait noire, elle a les yeux bleus.
Elle est ultra sexualisée, pour être un love interest.
Voilà, c'est un peu la James Bond girl, mais qui se retrouve, mais qui arrive quand même à faire l'intermédiaire, enfin qui est encore dans ce rôle de guide, ce fameux guide guide le blanc dans sa quête, etc. Et on ne sait pas, effectivement, comme tu disais, si ce sont des zombies ou pas encore, s'ils ont été malades ou pas encore, et c'est une maladie en plus qui se transmet par le sang.
Oui.
Et c'était l'époque où vraiment les scandales sanitaires autour du sida en Afrique faisaient rage, quoi. Et en plus, on est dans une ambiance qui est vraiment, on se croirait dans Mad Max, quoi. Enfin, une ambiance post-apocalyptique. Il y a une sirène qui sonne au loin comme si c'était une attaque chimique qui surgissait, ou enfin, on ne sait pas. Et t'as l'impression que l'Afrique, c'est un monde qui est en proie aux maladies, à la violence, avec des plans aériens sur des bidonvilles, etc.
Ah, les bidonvilles, les chèvres qui se baladent partout, enfin, un truc, mais vraiment... ouais, c'est, on est passé de la jungle luxuriante coloniale à cet espace-là, à moitié mort, à moitié décédé, dans lequel il régnerait la mort. Et c'est pour ça aussi que le parallèle avec les zombies, il est entretenu, c'est que on arrive dans un espace de mort. C'est-à-dire qu'on arrive dans un espace qui est mort-vivant, vraiment. Et on se demande si les Africains, les gens qui sont dépeints dans ce décor-là, sont des morts-vivants déjà ou pas. Et si ça appartient au fait que ce soit des zombies, ou si ça appartient au fait que ce soit des Africains. Enfin, ce jeu fait des rapprochements de sens qui peuvent vraiment brouiller les représentations et qui peuvent vraiment pousser les gens à avoir des réactions limite racistes.
Bon, attends, j'essaie de comprendre où est-ce qu'il faut aller. Je me souviens un peu le début. Il y a un mec qui se fait maltraiter dans un sachet là.
C'est normal.
C'est normal, on est en Afrique.
Voilà, là, par exemple, typiquement, on entendait des joueurs de Resident Evil 5, et leur réaction est clairement raciste face à des... C'est la scène d'intro du jeu, quasiment, où Chris se balade, et du coup, il voit des hommes tabasser un sac où il y a quelqu'un ou quelque chose dedans, on sait pas trop ce que c'est. Et voilà, typiquement, avec un accent que n'aurait pas renié Michel Leeb, c'est normal, c'est l'Afrique, quoi. Et du coup...
Il y a cette impression de normalité. Enfin, c'est normal, ça. Comme si pour eux, en Afrique, c'était tout le temps comme ça.
C'est aussi parce que le jeu accompagne ces dires-là. Enfin, on peut vraiment se dire ce genre de choses en voyant le jeu, parce qu'on se dit, mais c'est quoi ces mecs-là qui errent dans l'espace, qui sont dans un espace mort, qui sont déjà morts, c'est des zombies, ou ils sont vraiment comme ça. Enfin, c'est affolant, quoi, comme représentation.
Et non seulement c'est un espace fantasmé, donc cette Afrique de la violence, du chaos, de la guérilla perpétuelle, de l'instabilité politique, mais en plus, ça invisibilise totalement le fait que cette situation est issue de la décolonisation et puis d'une espèce de maintien de l'emprise de l'Occident sur les ressources de l'Afrique et qui l'empêche de s'émanciper totalement.
L'espace africain est pensé uniquement comme le lieu d'un blockbuster vidéoludique. Chris Redfield, Resident Evil, qui arrive pour dézinguer du zombie. D'ailleurs, le jeu va être critiqué beaucoup pour complètement abandonner l'aspect survival horror et ça aller dans de l'action pure. Et on oublie cette pensée-là de l'espace et de se dire que c'est un espace qui, finalement, s'il y a un côté post-apocalyptique en Afrique, c'est bien parce que c'est des espaces qui ont été colonisés pendant des années, qui ont été ensuite abandonnés, mais pas totalement, par les pays colonisateurs, et ils ont toujours été dans un entre-deux, qui ont toujours empêché le développement. Et du coup, on les montre comme des genres de monstres.
Oui, un truc dans une stase, dans une demi-vie perpétuelle. Mais malgré tout, il existe des pensées décoloniales du jeu vidéo qui se traduisent sous forme d'œuvre, finalement.
À partir du moment où il y a des gens qui connaissent ces situations, qui les ont vécues, ou qui ont été proches, qui sont des descendants de gens qui ont vécu ces choses-là, il y a un autre regard qui est posé là-dessus, et un regard qui est beaucoup plus... représentatif de la réalité de ces choses-là. Enfin, on pensera notamment au travail de Muriel Tramis et de Patrick Chamoiseau.
Donc Patrick Chamoiseau, qui est quand même un auteur antillais connu.
Oui, connu, tout à fait. Et Muriel Tramis, qui a fait les Hadibou, pour ceux qui ne le sauraient pas, les Hadibou.
Et d'autres jeux.
Et d'autres jeux, bien sûr, oui, non, mais parmi les plus connus.
Et qui est une des pionnières du jeu vidéo en France.
Oui, qui a beaucoup travaillé sur le jeu vidéo, qui a reçu la Légion d'honneur, d'ailleurs.
Et qui est antillaise, elle aussi.
Merci Muriel Tramis. Et du coup, ces deux personnes, Tramis et Chamoiseau, se sont emparées du médium vidéoludique pour finalement créer ce qu'on pourrait appeler une négritude vidéoludique.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est avec un jeu qui s'appelle Mewilo, qui est issu de la légende des Jardors, et qui en fait, qui est une légende martiniquaise, et qui en fait consiste à l'exploration de Saint-Pierre, qui a été, il faut le savoir, une ville martiniquaise détruite en 1902 par une éruption du Mont Pelé, et qui permet de se familiariser avec l'histoire de la Martinique. Alors en fait, l'histoire, déjà le synopsis, on comprend tout de suite que c'est radicalement différent avec le point de vue qui est apposé par un jeu comme Far Cry. C'est pas le blanc qui arrive pour faire le ménage, il y a une guérilla, il y a des zombies, je viens remettre de l'ordre dans ce bourbier. Là, en l'occurrence, c'est un type qui vient pour enquêter sur le retour d'un zombie dans une plantation, un truc un peu mystérieux et tout ça. Et en fait, on s'aperçoit que le zombie en question, enfin le zombie au sens vaudou du terme, hein, pas le zombie comme on peut se l'imaginer dans Resident Evil, et qui, en fait, qui hante la plantation, et après enquête, bon là, spoiler, hein, désolé, qui hante la plantation comme une espèce de retour d'un refoulé historique, parce qu'en fait, c'est un colon qui avait assassiné une partie de ses esclaves, et dissimuler son or, et du coup l'enquêteur doit retrouver la jarre d'or, parce qu'en fait dans la légende, les colons, pendant les révoltes d'esclaves, faisaient enterrer leur or quelque part dans la nature par leur plus fidèle esclave, et ensuite ils le tuaient à l'endroit où l'or était enterré pour que son esprit garde la jarre. Bon, en réalité c'est surtout pour garder le secret, mais là, en tout cas cette légende fait le lit du coup d'une pensée un peu fantastique, mais décoloniale de ces événements, et du coup qui permet de régler son compte à une histoire, à un travail de mémoire qui n'a pas encore été entamé.
Oui, parce que tout ce qui est le gameplay, tout le gameplay en fait est lié à la question de la mémoire et de l'histoire. Enfin, on a vraiment une historia quoi, au sens de l'enquête. Et contrairement, par exemple, si on le compare à Gabriel Knight, enfin Gabriel Knight, c'est un prétexte à mettre en place des enquêtes, des jeux et des tout ça. Alors que là, on est vraiment au cœur d'un gameplay qui cherche la mémoire, qui cherche à comprendre et qui cherche à vraiment aller chercher en soubassement comment ça se construit et qui essaye de faire émerger une culture aussi.
Et d'ailleurs, il y a dans le livret du jeu une nouvelle de Patrick Chamoiseau qui s'appelle « Les derniers jours d'une mulâtresse » et qui justement resitue ce contexte historique au-delà du simple amusement, etc. et qui essaye de faire le tour de l'événement sans le placer comme un simple truc spectaculaire dans lequel on se pose pas de questions, on arrive, il y a des zombies, on doit les flinguer, voilà. Là, on réfléchit à cette histoire problématique qui fait retour.
Enfin, c'est qu'en France aussi, il faut... C'est intéressant de noter que le jeu était vendu avec une recette de cuisine antillaise et avec une cassette audio du groupe Malavoie, je pense que ça se dit comme ça, qui est un groupe de musique antillais à l'époque. Enfin, il y a une volonté voilà, de vraiment exprimer une culture et de plus vraiment voilà, s'en servir sans questionner cette culture-là et de vraiment mettre cette culture au cœur du problème du médium vidéoludique.
Et ensemble, du coup, Muriel Tramis et Patrick Chamoiseau ont fait un autre jeu qui s'appelle Freedom, qui se passe dans une plantation le temps d'une nuit, en fait. On incarne le personnage qui va mener une révolte d'esclaves. Alors, le premier était plutôt un point and click, alors que celui-ci est plus un jeu d'aventure.
Ouais, un genre de RPG.
De proto-RPG, ouais, parce que ça date des années 80, quand même. Mais, toujours est-il que le premier carton, enfin, le premier écran du jeu, c'est une silhouette noire, en fait, qui brise ses chaînes sur le fond d'une espèce de contre-jour.
Qui se lève, qui était au sol, et
voilà.
Qui brise ses chaînes en se levant.
Et en fait, on se rend compte que c'est une image qui revient beaucoup, beaucoup dans les œuvres de la négritude, alors non seulement en poésie, mais aussi dans la statuaire. C'est-à-dire que, aussi bien en Guyane qu'en Martinique, etc., sur les fronts de mer, on peut trouver des statues comme ça, faites souvent dans un métal noir, qui brisent leurs chaînes, en fait. Et du coup, on se rend compte qu'il y a toute une généalogie de cette image, et qui se retrouve dans ce jeu qui vise justement, pareil que pour May Willow, à retracer une histoire problématique sous la forme du jeu vidéo.
Puis à mettre en scène des acteurs qui ont longtemps aussi été diabolisés parce qu'ils ont été racontés d'un certain point de vue de l'histoire, c'est-à-dire le point de vue des Blancs. Et du coup, c'est vraiment mettre cette culture-là, cette culture de l'anti-esclavagisme, cette culture du refus de l'exploitation humaine, au cœur d'un jeu, quoi, et changer vraiment de regard par rapport à l'activité de l'esclavage, quoi.
Après, ce qu'il faut noter, c'est que ces jeux sont anciens, donc on le disait qu'ils datent des années 80,
ouais,
et peut-être un peu méconnus du grand public, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le jeu, si on fait un état des lieux du jeu vidéo dans les anciennes colonies françaises, il y a eu des filiales de sociétés occidentales en Afrique, comme Ubisoft à Casablanca. Là encore, dans une logique d'exploitation des ressources, que ces studios s'implantaient là-bas. Il a fallu attendre, du coup, les années 2010 pour que un jeu vidéo africain émerge.
Bah, oui, un jeu vidéo africain au sens où, comme May Willow ou Freedom, on a un jeu vidéo qui va vraiment s'inspirer de la culture africaine, qui va vraiment la mettre en valeur, s'en servir comme moteur ludique, et qui ne va plus seulement la regarder de loin ou va mettre en scène un héros blanc dans cette culture-là, qui a un regard extérieur. Non, on est vraiment au cœur de cette culture-là. Et bon, enfin, il y a un jeu notamment qui a pas mal marché au Bénin et qui s'appelle Les Aventures de Béanzin, qui est un jeu développé du coup par, je suis désolé si ma prononciation est mauvaise, Franck David Nianoui.
Si l'histoire du royaume du Danroumain était revisitée au quotidien à travers une de ses légendes, l'idée paraît fabuleuse, mais elle a déjà pris corps à travers Les Aventures de Béanzin, ce nouveau jeu vidéo purement béninois. Son concepteur, c'est lui, Franck, développeur et passionné de jeux vidéo.
Les jeux d'inspiration africaine, il n'y en a quasiment pas. Je voulais faire un jeu d'aventure et naturellement, Béanzin était le personnage idéal pour commencer un premier jeu.
Dans un univers de jeux vidéo peu fertile au Bénin, Franck, aidé de ses copains, a mis près de 24 mois à sortir les premières moutures de ce projet original.
Au départ, j'en avais parlé à des amis qui étaient du même avis par rapport à mes constats, mais qui disaient au Bénin, on ne peut pas développer un jeu d'aventure au Bénin. Et pour eux, c'était un rêve. Donc moi, je suis jeté à l'eau. 6 mois après, j'ai fait 6 mois pour appréhender l'environnement des jeux. Et 6 mois, les autres 6 mois, j'ai développé les premières versions, les premiers prototypes. Et c'est après les autres ont suivi. Donc ça a fait pratiquement 2 ans de développement.
Donc là, il y avait une interview donc, de Franck David Nianoui qui parlait justement du parcours et qui montrait bien à quel point c'était compliqué aujourd'hui de faire un jeu en Afrique, parce que c'est une région qui est totalement sortie des modes de production habituels du milieu vidéoludique et qui avait à cœur cette volonté de mettre en scène la culture africaine, la culture du Bénin, à travers la figure de Béanzin. Béanzin qui d'ailleurs est souvent diabolisé dans les cours de... Enfin, moi j'avais suivi des cours d'histoire où justement, enfin, il était vu comme genre de roi sanguinaire.
Oui, une espèce de roi telé local, oui, alors voilà. Que dans la culture africaine, on va un petit peu...
C'est un résistant à la colonisation française, vraiment.
Et en 2016, donc il y a un autre jeu qui sort qui s'appelle Cross Dakar City de Ousseynou Kadimbaye, donc qui est ingénieur. Alors il est sorti de l'école polytechnique de Dakar et de l'école centrale de Lyon.
Ça, c'est un jeu où on incarne un enfant talibé. Donc un enfant talibé, c'est au Sénégal, c'est des enfants qui sont envoyés dans des écoles coraniques et qui souvent, pour survivre en fait, pour payer leur formation, et doivent mendier en fait dans la rue, et donc ils ont une situation de vie très précaire. Et donc Ousseynou Kadimbaye a vraiment voulu dénoncer ça, le mettre en valeur et montrer que c'est un problème sociétal. Enfin, il y a vraiment une volonté, comme dans les pays en fait finalement d'Occident, une volonté de montrer les problèmes sociaux à travers le jeu vidéo, de les mettre en scène à travers le médium vidéoludique.
Et on a pu trouver un dernier jeu dont la description nous a beaucoup intéressé en particulier. C'est aussi un jeu de 2016 qui s'appelle Les Héros du Sahel, donc qui est adapté d'une bande dessinée nigérienne. Donc c'est le premier jeu fait au Niger par Mahaman Sani Ousseni Issa. Et dans la description du jeu, dans sa note d'intention, il écrit quelque chose de très important. Le jeu est gratuit, car il a été avant tout réalisé pour les compatriotes que vous êtes pour nous, et c'est tous ensemble qu'on émergera pour avancer, personne d'autre ne le fera pour nous. C'est une phrase quand même assez importante, enfin, le poids politique que peut supporter du coup un jeu vidéo, en l'occurrence c'est on se représente nous-mêmes, on représente nous-mêmes notre histoire à travers le jeu vidéo, dans une démarche totalement décoloniale.
Ben c'est ça, alors que le jeu vidéo, on l'a dit juste avant, a longtemps été un vecteur de représentation orientaliste et a été vraiment, c'était un objet d'oppression en fait pour ces populations-là, et ben maintenant elle devient un objet d'émancipation, c'est un objet qui permet de mettre sur le devant de la scène des figures de la culture nigérienne par exemple, enfin il y a un des personnages des Héros du Sahel qui porte sur lui le drapeau du Niger, donc vraiment une mise en valeur, une volonté de s'émanciper d'une certaine... s'émanciper du jeu vidéo lui-même, c'est-à-dire de s'émanciper d'une certaine représentation qu'ont toujours eu les pays colonisés dans le jeu vidéo, en fait.
Oui, parce que même s'il demeure la question des supports en Afrique, c'est-à-dire on voit que c'est très compliqué dans le reportage, ils font ça entre amis, un petit peu comme avant les jeux vidéo ici, c'est-à-dire dans le garage, on essaie de coder un peu avec ce qu'on a, avec des ordis qui sont pas forcément adaptés. C'est très artisanal parce qu'il n'y a pas de structure qui réponde à leurs besoins dans leur pays. Et pareil pour la réception, c'est-à-dire qu'il y a très peu de support pour les joueurs. C'est-à-dire que c'est pour ça que ces gens produisent beaucoup de jeux mobiles, parce que c'est peut-être ce qu'il y a de plus répandu et de plus facile d'accès en Afrique. Mais ce qui est intéressant, malgré tous ces problèmes de support, de développement, etc., c'est aussi de se dire qu'il y a des créateurs et des créatrices issus des colonies qui se mettent à prendre en main leur image et cette image vidéoludique qui longtemps leur a été refusée et qui peuvent peut-être avoir à l'avenir une influence sur les représentations de l'Afrique et des anciennes colonies dans le jeu vidéo.
Dans les pays anglo-saxons, il y a vraiment de plus en plus d'émergence de Postcolonial Game Studies, donc des études postcoloniales qui s'intéressent aux jeux vidéo. C'est vrai qu'en France, alors moi, à ma connaissance, mais ça vaut ce que ça vaut, j'en ai pas lu beaucoup, enfin, j'en ai pas trouvé énormément. Par rapport aux pays anglo-saxons, les Postcolonial Game Studies, donc des études postcoloniales qui vont s'intéresser aux jeux vidéo, j'ai l'impression que ça manque un petit peu. Enfin, moi, j'en ai pas lu beaucoup, ça, je pense que ça existe, et je suis désolé pour tous ces chercheurs-là, mais j'en ai pas trouvé beaucoup, et ça manque à un pays qui a été un gros colonisateur, quand même.
Et puis surtout que ça rentre dans cette logique initié par beaucoup de penseurs décoloniaux, bah, comme Pascal Blanchard par exemple, cette idée qu'il faut décoloniser les imaginaires, que c'est un mouvement qui est nécessaire aujourd'hui après tout ce qu'on a pu faire comme travail historiographique sur les colonies. Et le jeu vidéo ne peut pas y échapper en tant qu'art, parce qu'il va être obligé de s'y coller à un moment donné dans cette décolonisation des imaginaires. Et le fait qu'il existe des créateurs et créatrices de jeux vidéo alors inspirés de la négritude ou carrément décoloniaux sera nécessaire pour opérer ce mouvement.
Ta tiare solaire, à coups de crosse enfoncée jusqu'au cou, ils l'ont transformée en carcan. Ta voyance, ils l'ont crevée aux yeux, prostituée ta face pudique, emmuselée, hurlant qu'elle était gutturale, ta voix qui parlait dans le silence des ombres. Afrique, ne tremble pas, le combat est nouveau, le flot vif de ton sang élabore sans faillir, constante une saison. La nuit, c'est aujourd'hui, au fond des mares, le formidable dos instable d'un astre mal endormi. Et poursuis tes combats, n'uses-tu pour conjurer l'espace que l'espace de ton nom irrité de sécheresse. Bouti, bouti, terre trouée de bouti saké, tatouée, grand corps massif défigure où le dur groin fouilla, Afrique les jours oubliés qui cheminent toujours aux coquilles recourbées dans les doutes du regard, jailliront à la face publique parmi d'heureuses ruines dans la plaine. L'arbre blanc aux secourables mains, ce sera chaque arbre, une tempête d'arbres parmi l'écume non pareille et les sables. Les choses cachées remonteront la pente des musiques endormies. Une plaie d'aujourd'hui est une caverne d'Orient. Un frissonnement qui sort des noirs feux oubliés, c'est des flétrissures jaillies de la cendre des paroles amères, des cicatrices, tout lisse et nouveau, un visage de jadis. Caché oiseau craché, oiseau frère de soleil.
Mais le souvenir sans rester, pardonne-moi si tu le peux, reviens très vite près de moi. Ma douce lune, un amour que je lis dans tes yeux. Que tu lis dans les miens, je t'aimerai comme tu m'aimeras, car notre amour durera pour toute la vie, pour toute la vie, pour toute la vie.
Et c'est ainsi que s'achève ce numéro 13 des Aventuriers du Pixel Perdu. On remercie Pierre pour sa formidable lecture du poème Afrique d'Aimé Césaire et à bientôt pour un nouveau numéro des Aventuriers du Pixel Perdu.